Exode 13, je vais lire à partir du verset 17. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu se dit, en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer des Roseaux. Les Israélites étaient partis d'Égypte en ordre de bataille et Moïse avait pris avec lui les ossements de Joseph, car ce dernier l'avait fait jurer aux fils d'Israël en disant « Quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici avec vous. » Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étham, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. L'Éternel dit à Moïse, « Parle aux Israélites, qu'ils reviennent camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de cet endroit que vous camperez près de la mer. Le Pharaon dira des Israélites, « Ils sont perdus dans le pays, prisonniers du désert. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Mais le Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Tout se passa ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les dispositions de cœur du Pharaon et de ses serviteurs envers le peuple changèrent. Ils se dirent, « Qu'avons-nous fait en laissant partir Israël ? Nous n'aurons plus ses services. » Le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, ainsi que tous les chars de l'Égypte, chacun avec ses combattants. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les Israélites. Pourtant, les Israélites étaient sortis ouvertement d'Égypte. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux et les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée, les rattrapèrent, alors qu'ils campaient près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. »
Bonjour, ravi d'être ici, content de pouvoir louer le Seigneur avec vous, d'un seul cœur, qu'on puisse vraiment regarder au-dessus de nous et dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour cette église, gloire à Dieu pour ces hommes de Dieu qui servent ici pour la gloire de Dieu. Et quel privilège, quel honneur pour moi en tout cas de pouvoir vous apporter ce matin la parole de Dieu. Que la grâce, que l'amour et que la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliés. Avant de commencer, je veux vous inviter à courber vos têtes pour la prière, si vous voulez bien. Seigneur Dieu, nous reconnaissons que ta parole, elle est la vérité, qu'elle nous sanctifie, qu'elle est fiable, qu'elle est sans erreur, qu'elle est claire et qu'elle est notre autorité suprême. Aide-nous, comme ça a été dit, à être attentifs à ta parole, être attentif à ce que tu veux encore nous dire ce matin. Aide-nous à écouter avec foi. Et aide-moi, Seigneur, à communiquer cela de manière claire afin que nous puissions mettre cela en pratique. C'est dans ton beau et précieux nom que je te prie. Amen. Est-ce que je vous ai déjà arrivé d'être dans une impasse, d'être dos au mur, d'être dans une situation critique où il semble ne pas y avoir une issue favorable. C'est comme si, d'un côté, ton passé essaye de te rattraper. C'est comme si une dette, une rumeur, une calomnie à ton sujet, peut-être un ex, une ex, peut-être quelqu'un d'autre essaye de te rattraper. Et ça peut être une relation abusive, ça peut être une habitude que tu avais qui est destructrice. Ces choses essayent de te rattraper, te poursuivre et ne veulent point te lâcher. Ça peut être un patron qui ne veut pas du tout te lâcher. Ça peut être autre chose, bien sûr, peut-être une lutte avec un péché bien précis. Tu avais une victoire sur ce péché et maintenant ce péché revient au galop. Essaye de nouveau de t'accrocher, de t'harceler. Et puis de l'autre côté, tu regardes ton avenir. Un avenir qui t'inquiète, peut-être des prévisions qui t'empêchent de dormir la nuit. Tu es agité, bouleversé, troublé, tu te demandes, est-ce que je veux m'en sortir ? Est-ce que je veux m'en sortir ? Est-ce que je pourrais payer des factures ? Et le récit qu'on vient de lire nous montre comment nous devons agir lorsqu'on est dans l'impasse. Ou comment nous devons réagir lorsque notre passé ou notre futur nous menace. Et s'il y a bien une chose qui sort du texte qu'on vient de lire ou que pasteur Paul a lu et qu'on doit d'emblée souligner, c'est, et ce qu'on voit aussi dans le chapitre précédent, c'est que le livre d'Exode tourne autour d'un héros. Et le livre d'Exode tourne autour d'un personnage. Et le personnage principal, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Aaron, ni le Pharaon, ni même Israël, mais c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui est le personnage principal ici. Et ici, on voit que c'est l'Éternel qui se fait connaître d'abord à Moïse. Ensuite, à son peuple. Il se fait connaître au Pharaon. Il se fait connaître aux Égyptiens, on pourrait dire même aux Philistins et les autres peuples des alentours. Et comment, n'est-ce pas? Et comment? Et ici, il se fait connaître, et à trois reprises, on l'a lu au chapitre 14, il se fait connaître et surtout, il exprime son intention de faire éclater sa gloire. Il veut manifester sa gloire comme jamais auparavant. Dès le verset 4, regardez avec moi, il met les cartes sur table. Il met les cartes sur table en disant qu'il va utiliser le Pharaon, l'homme le plus puissant de son temps, pour faire quoi ? Pour faire éclater sa gloire. Il répétera cela au verset 17 et au verset 18, où il dit ceci, verset 18. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Ça, c'est le cœur du message. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas perdre de vue lorsqu'on va étudier maintenant ce chapitre 14. C'est que Dieu veut faire éclater sa gloire. Et ça fait bien sûr écho à ce que le Pharaon avait dit lorsqu'il avait rencontré Moïse en tout premier lieu. Pharaon avait dit au chapitre 5, verset 2, il avait posé cette question. Regardez avec moi, Exode 5, 2. Qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel pour que je obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel. Je ne laisserai point aller Israël. Qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel? Regardons ensemble ce que ce passage qu'on a lu, juste à quelques instants, ce que ce passage nous donne comme réponse. Tout d'abord, on voit clairement que l'Éternel est celui qui pourvoit. Il est le Dieu souverain qui met tout en place, qui orchestre toutes choses, qui orchestre les circonstances, les événements, qui endurcit même le cœur de ses ennemis pour accomplir ses plans à lui, pour se faire connaître à son peuple qui visiblement ne connaît pas vraiment. Et à la fois, il est aussi ce Dieu extrêmement bienveillant, qui nous connaît, qui te connaît, qui connaît tes faiblesses, qui connaît mes faiblesses, et qui n'en tient pas compte, ou plutôt qui en tient compte, qui est compatissant, bienveillant vis-à-vis de ça. Et je me dis, mais n'est-ce pas merveilleux de pouvoir adorer ce Dieu-là, d'être sous sa protection, de ce Dieu qui connaît mes faiblesses et qui est patient avec cela, avec moi. Ainsi, on apprend à la fin du chapitre 13, au verset 17, que lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus rapide, quoique le plus direct, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Et je me dis, mais qu'il est bon. Qu'il est bon de se rappeler que le Dieu qu'on sert ne va pas au-delà de nos capacités, au-delà de nos forces. Qui sait jusqu'où on peut tenir. Qui sait jusqu'où on peut aller, n'est-ce pas? Et il ne prend aucun plaisir d'aller au-delà de ce qu'on peut tenir, au-delà de ce qu'on peut supporter ou endurer. Non, il ne prend aucun plaisir de nous voir échouer. Bien au contraire, il ne permettra pas qu'on soit tenté, éprouvé, au-delà de nos forces, n'est-ce pas? Comme dit l'apôtre Paul, mais avec la tentation ou avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen de s'en sortir. Et n'est-ce pas exactement ce que Dieu va faire ici, dans ce récit? Que le Dieu qui va les conduire dans les airs et au contrôle. Il leur fait un détour, mais c'est un détour providentiel. Car voyez-vous, le chemin le plus court, le plus rapide, c'était le chemin vers la mer, c'était le chemin vers le pays des Philistins. C'était ce qu'on appelait la voie de la mer, ou la Via Maris, l'autoroute si vous voulez. Mais Dieu ne les amène pas, ne les conduit pas vers la voie de la mer, mais il les conduit vers la voie du désert. Il les amène, on pourrait dire, dans un cul-de-sac. Il les amène ou il les place dans une impasse entre Migdol, cette tour fortifiée, et la mer Rouge. Et c'est pas un hasard. C'est voulu, orchestré par Dieu lui-même. Non pas pour les faire périr, mais pour faire éclater sa gloire. Et ainsi se faire connaître à son peuple. Se faire connaître à son peuple et leur faire comprendre qu'il est entièrement digne de confiance. Il en est de même dans nos vies. Dieu nous fait passer par des situations critiques où on est dos au mur. Il nous fait faire des détours providentiels afin qu'on grandisse et qu'on le connaisse. Non de juste en apprenant des versets par cœur, mais qu'on les connaisse intimement, qu'on le connaisse de manière non seulement théorique, mais de manière pratique. Et savoir cela, savoir que c'est Dieu qui nous conduit par le chemin du désert et nous place entre Migdol et la mer Rouge, ou qui nous place dans une impasse, cela change tout. Cela change tout, cela change notre façon de voir les choses. Ça devrait changer aussi notre façon de vivre l'épreuve qu'on traverse. Car si c'est lui, si c'est Dieu qui a permis... Si c'est lui qui a permis et qui m'a conduit dans cette épreuve, dans cette situation délicate, cette situation critique, eh bien, alors c'est aussi lui qui va m'en sortir. C'est aussi lui qui va agir, pouvoir intervenir pour me secourir. Et je dois regarder à lui parce que c'est voulu par lui, afin qu'il reçoive bien sûr toute la gloire. Car avec Dieu, il n'y a pas d'accident de parcours. Il n'y a que des détours providentiels. Et c'est aussi le titre que j'ai donné à cette prédication, il n'y a pas d'accident de parcours, que des détours providentiels. Oh, bien sûr, il y a des situations où nous sommes arrivés par, excusez-moi, mais par stupidité, par entêtement, par orgueil, par pure bêtise humaine. Mais je ne parle pas de ces événements-là. Je parle de ces événements inattendus qui, soudainement, subitement, viennent chambouler, bouleverser notre quotidien, nos habitudes, qui génèrent la peur, la panique, la frayeur, des situations sur lesquelles on ne peut avoir une emprise. On n'a aucun contrôle. Et bien sûr, ça peut provoquer en nous des angoisses. Je pense bien sûr à la crise Covid passée, la crise écologique, la crise énergétique peut-être la guerre en Ukraine ou une autre guerre, peut-être la guerre en Taïwan, je ne sais pas. L'inflation, peut-être c'est plus terre à terre ici dans le sens un ado rebelle à la maison. Peut-être c'est un licenciement collectif dans ton entreprise. Peut-être tu travailles à Dallas. Peut-être c'est une campagne de calomnie vis-à-vis de ta personne, ta famille. Ou peut-être c'est simplement une injustice. Pour les enfants d'Israël, ici, c'était le pharaon, ce tyran qui les maltraitait pendant des années et qui les laisse aller, mais qui subitement s'avise et qui se dit mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que nous avons fait pour laisser partir ces Israélites, pour laisser partir cette main-d'œuvre gratuite ? Et il se ravise et il se dit, il prend ses meilleurs hommes, l'élite, cette unité spéciale, ses 600 chars, mais aussi tous les autres chars d'Égypte avec lui pour aller poursuivre poursuivre les Israélites dans le désert. Et quand il approche, quand le pharaon et son armée, sa cavalerie approchent, les Israélites voient au loin arriver ces Égyptiens enragés, furieux peut-être d'avoir perdu leur fils aîné, peut-être un frère. Ils voient leurs anciens maîtres d'esclaves, ces inspecteurs revenir à la charge. Et bien sûr, ils sont saisis d'une grande frayeur, dit la parole de Dieu. Ils sont saisis d'une grande frayeur, ils crient à Dieu. Mais ça ne tente pas vraiment à Dieu. Ils crient à Dieu, oui, c'est peut-être une prière, mais tout de suite, ils s'en prennent à Moïse, l'homme de Dieu, en disant ceci. Verset 11. « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte ?» Avec un ton d'ironie ici. « Sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert, que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? Que nous as-tu fait ?» Il voit plus clair, il raisonne même plus de manière logique. En d'autres mots, Moïse, où est-ce que tu nous as amenés ? Où est-ce que tu nous as amenés ? Dans quelle voie nous as-tu embarqués ? Nous allons tous périr, nous allons tous y passer. Et n'est-ce pas incroyable à quel point ce peuple peut avoir la mémoire courte ? Si nous avions vu ce que Dieu avait fait et dont ils étaient témoins, je parle bien sûr des 10 plaies, on devrait se rappeler cela, bien sûr. Il a manifesté sa toute-puissance. Il a mis l'homme le plus puissant, le pharaon, à genoux. Mais voici que dans la panique, dans la frayeur, ils vont jusqu'à dire l'impensable, à savoir qu'il est préférable de vivre en servant le pharaon en tant qu'esclave que de mourir en servant l'Éternel. Et ce qui est étonnant ici, c'est qu'il ne voit que deux options. Pourtant, il pourrait avoir une troisième option, n'est-ce pas ? Il ne voit que deux options parce qu'ils omettent Dieu de l'équation. Ils regardent d'une part, ils voient leur ennemi, cet ennemi de taille, cette cavalerie foncer sur eux, et puis ils regardent à eux-mêmes. Ils regardent à leur propre capacité, à leur propre intelligence, à leur propre force, et ils se disent, on ne va pas y arriver. Bien sûr qu'ils ne vont pas y arriver. Ils ont oublié Dieu dans l'équation. Ainsi, le psaume 106, verset 7, dit ceci. Et je crois que le psalmiste là met le doigt sur le problème en disant ce qui se passe. Dans le psaume 106, verset 7, et je lis la version Derby, il écrit ceci. « Nos pères en Égypte n'ont pas été attentifs à tes miracles ou ici à tes merveilles. Ils n'ont pas été attentifs, ils ont été négligents, nonchalants. Ils ne se sont pas souvenus de la multitude de tes bontés, mais ils ont été rebelles, près de la mer, à la mer Rouge. » Verset 8. « Cependant, peut-être dans votre traduction, « mais », il les sauva. Mais, et j'aime les mais de Dieu ici dans la Bible, mais il les sauva. Pourquoi? À cause de leur mérite? À cause de la qualité de leur foi? À cause du fait qu'ils étaient très très spirituels? À cause de leur intelligence? Non, loin de là, loin de là. À cause de son nom. À cause de sa gloire, si vous voulez, à cause de son nom et afin de donner à connaître sa puissance. Et n'est-ce pas souvent ce qui nous arrive à nous lorsqu'on fait face à un adversaire? On oublie vite ce que Dieu a fait et ce qu'il peut encore faire pour nous. Dès qu'on a une tuile qui nous tombe dessus, un imprévu de taille, peut-être une cavalerie qui fonce sur nous, on se demande, où es-tu Seigneur? Où es-tu? Pourquoi dois-je traverser cela? Et est-ce que tu vas à nouveau me sortir d'affaire ou pas? Oh, je sais qu'il a pu faire ceci ou cela par le passé, mais qu'en est-il de ce problème ici? Qu'en est-il de ce problème gigantesque qui se dresse là devant moi? Ou bien tu dis, je sais qu'il peut faire cela pour Pasteur Evry, pour Eric, pour Patrick, mais je suis plus sûr qu'il peut et qu'il veut encore le faire pour moi. Parce que ma vie de prière, ma vie spirituelle n'est pas au point. À nouveau, Dieu a sauvé les Israélites pour sa gloire. Non pas parce qu'ils étaient tellement supérieurs ou meilleurs, non, pour sa gloire. Alors sois rassuré. Et ce qui doit attirer notre attention dans ce récit, c'est le contraste, la différence flagrante entre, d'une part, la réaction, j'ai envie de dire, pathétique, fataliste des Israélites au verset 10 à 12, et puis d'autre part, cette réaction de Moïse, plein de foi. Au verset 13 et 14. Moïse qui ne tremble pas. Il reste calme. Il est confiant en l'Éternel. Alors qu'il est sous pression, non seulement des Égyptiens, mais aussi de l'intérieur, son propre peuple qui murmure à nouveau. Et croyez-moi, les Égyptiens venaient pour récupérer leurs esclaves, n'est-ce pas? Mais je ne crois pas qu'ils auraient laissé Moïse en vie. Je ne crois pas. Et donc, il avait beaucoup à craindre. Mais comment ça se fait donc? Comment expliquer cette différence entre les Israélites et Moïse? Et j'aimerais suggérer trois mots ou trois explications par trois mots, tous commençant par un P, comme ça on se rappellera plus facilement. Promesse, présence, providence. Promesse, présence, providence. Premièrement, promesse, car Moïse s'appuyait sur les promesses de Dieu. Et regardez avec moi au verset 19 du chapitre 13. Qu'est-ce que Moïse et le peuple de Dieu ont apporté avec eux lorsqu'ils sont sortis d'Égypte? Ils ont apporté avec eux les os de Joseph. Et ce n'est pas sans importance. Les os de Joseph étaient comme un rappel, c'est comme une illustration visuelle que Dieu est digne de confiance, que Dieu tient sa parole, qu'il tient ses promesses. Car voyez-vous, Joseph avait prédit l'Exode, que Dieu allait les visiter. Il l'avait fait bien des années auparavant, presque 4 siècles auparavant, il avait prédit que ça allait arriver. Et voici que Moïse tient compte de ce que Joseph a fait jurer aux fils d'Israël. notamment de faire remonter ces eaux dans la terre promise. Deuxièmement, présence. Moïse ne tremble pas, car Dieu est là. Et on l'oublie, mais ok, on voit les Égyptiens arriver, mais Dieu est toujours là. Dieu est présent, 24 heures sur 24 dans le désert avec eux. De jour, ici on voit le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu, n'est-ce pas? Troisièmement, providence. Moïse reste calme parce qu'il sait. Il sait que tout ceci n'est pas un accident de parcours. Il sait que tout ceci n'est pas hors du contrôle bienveillant de Dieu. Bien au contraire, c'est le plan même de Dieu. C'est voulu par Dieu, c'est orchestré par Dieu. À vrai dire, c'est Dieu en personne qui endurcit le cœur du Pharaon, qui fait croire au Pharaon que les Israélites se sont égarés, se sont enfermés dans le désert. En fait, c'est Dieu qui veut ceci. Dieu veut qu'ils passent par la voie du désert, non par la voie de la mer, parce que s'ils étaient passés par la voie de la mer sur le chef des Philistins, pas sûr que les Égyptiens auraient combattu les Philistins, mais ça, ce n'est qu'une supposition. Mais il veut les faire croire aux pharaons qu'ils se sont perdus dans le désert, afin que justement, amener le pharaon là à les poursuivre. Et tout cela avec un but précis, afin de faire éclater sa gloire, afin de faire éclater sa gloire et que tout le monde le sache, que l'armée la plus puissante au monde de son temps, l'Égypte, s'est anéantie, a été engloutie ainsi en ce miracle que vous connaissez bien sûr, la mer Rouge qui s'ouvre. C'est comme si aujourd'hui, les États-Unis, pas pendant des années de guerre, pas pendant plusieurs événements stratégiques, mais comme ça, se font engloutir soudainement par le Dieu d'Israël. Tous les peuples commençaient à trembler. Tous les peuples, les Philistins, les Amoréens, tous étaient impressionnés par ce Dieu-là. Et de ce fait, Moïse s'attend donc à Dieu, car Dieu n'est pas du tout pris par surprise par la venue du Pharaon. À vrai dire, il avait dit à Moïse, le quoi, le pourquoi, et une partie du comment ça allait se passer, et même où ça devait se passer, on l'a lu, c'était notamment à Pi-Hahiroth. Savoir le plan de Dieu permet Moïse d'avoir une autre perspective, d'avoir une vue hélicoptère. Et nous avons besoin de cela, lorsque nous sommes dans l'épreuve, de prendre la hauteur, de regarder qu'est-ce que Dieu fait finalement et comment il va se manifester dans toute sa gloire, n'est-ce pas, à travers l'issue de cette épreuve. Oui, il prend de la hauteur et cela permet Moïse d'avoir une autre attitude. Et donc, lorsqu'on comprend qu'avec Dieu, il n'y a pas d'accident de parcours, mais qu'il n'y a que des détours providentiels, où Dieu veut qu'on lui fasse confiance, où Dieu veut faire éclater sa gloire, alors ça change tout, n'est-ce pas? Ça change tout. Plus besoin de s'affoler. Plus besoin de paniquer, de trembler. Juste s'attendre à Dieu, à sa provision, à sa providence. Ou comme Moïse a dit au peuple, au verset 13 du chapitre 14, il dit, n'ayez pas peur. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et ici, dans ce verset, Moïse donne trois actions concrètes, trois impératifs. Premièrement, il leur dit « n'ayez pas peur ». Et la peur, c'est finalement l'ennemi de la foi. La peur nous pousse à regarder ailleurs qu'au Seigneur. La peur nous pousse à regarder à soi, à ses capacités. Elle nous pousse à regarder aux circonstances, à la crise. Elle nous pousse à regarder à nos idoles. Mais elle nous fait oublier le Dieu Tout-Puissant. Et Moïse peut donner cet ordre parce qu'il est confiant, pleinement persuadé que l'Éternel combattra pour eux. Qu'il n'y a pas le moindre doute pour lui. Que Dieu accomplira ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. ici, il ne les avait pas fait sortir d'Égypte avec les 10 plaies pour ensuite les faire tous anéantir par le pharaon et ses cavaliers. Ça n'a pas de sens. De même, si, je dis bien si, s'il t'a sauvé, s'il t'a sauvé de la colère de Dieu, il ne t'a pas sauvé pour ensuite dire « débrouille-toi et voici, c'est tout ». Non, non, non. Ici, on voit que celui qui a commencé à ta conversion, celui qui a commencé cette bonne œuvre, oui, il la rendra aussi parfaite pour le jour du Seigneur. Celui qui est capable de te sauver est aussi capable de te garder, de te garder dans l'épreuve. Il ne va pas au-delà de ce que tu peux subir ou endurer. Ensuite, deuxièmement, Moïse leur dit de rester en place. Notez qu'il ne dit pas de « préparez-vous pour le combat ». Il ne dit pas « retroussez vos manches, défendez-vous bec et ongles contre ces Égyptiens ». Il ne dit pas « soyez vaillants ». Non, il dit simplement « restez en place ». Et souvent, notre premier réflexe face à un adversaire de taille, c'est ou de fuir ou d'agir. Mais ici, c'est étrange, n'est-ce pas? C'est rester en place. Ne doutez pas. Ne regardez pas à vous. Ne regardez pas à vos propres forces, à votre propre sagesse, mais regardez à l'Éternel. Et ça nous amène au troisième point. Regardez. Regardez. Attendez-vous à la délivrance que l'Éternel vous accordera aujourd'hui. Fixez vos regards sur lui, sur l'Éternel, sur Jésus, non sur les Égyptiens, ni sur le pasteur, ni sur les anciens, ni sur Moïse, ni sur la verge de Moïse, mais sur l'Éternel. Car il combattra pour vous. C'est lui qui, à coup sûr, t'accordera la délivrance, te sauvera. Alors de grâce, comme dit Moïse, gardez le silence. Gardez le silence. Souvent, on prend beaucoup de temps pour décrire la crise, pour décrire nos circonstances. Et bien sûr, il y a un temps où on peut parler à Dieu pour exprimer nos sentiments et appliquer la vérité et recadrer et avoir une bonne perspective. Mais puis, il est temps de regarder à l'Éternel, de s'attendre à l'Éternel, de regarder à sa parole. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Autrement dit, la victoire est assurée, elle est garantie. Les Égyptiens qui viennent après toi, n'ont plus droit au chapitre. Les Égyptiens qui viennent après toi n'ont plus de pouvoir sur toi. La puissance du péché a été anéantie. Nous sommes victorieux. Oh, il y a des luttes, certainement. Certainement, mais tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave de ton péché car tu as été racheté au prix fort par le sang précieux de l'agneau de Dieu, par le sang précieux de Jésus. Oh, c'est vrai que notre passé, peut-être même nos anciens péchés, essayent parfois de nous rattraper. Mais n'aie pas peur. Reste en place. Regarde la délivrance que le Seigneur t'accordera. Dieu leur dit ce qu'il doit faire et ensuite il dira ce qu'il va faire. Et je vais m'arrêter ici. Car vous connaissez certainement la suite de ce récit. Mais lorsqu'on est dans l'épreuve, on ne connaît pas la suite. Lorsqu'on est dans l'impasse, lorsqu'on est sous pression, on ne sait pas nécessairement comment ça va se dérouler. Mais sachez que Dieu est là, avec vous. Il te donne des promesses, qu'il sera toujours avec vous jusqu'à la fin du monde, n'est-ce pas? Il est là, au beau milieu de l'épreuve. Il nous appelle à marcher par la foi et non par la vue. Alors rappelle-toi qu'il n'y a pas d'accident de parcours, que des détours providentiels, où Dieu désire nous rencontrer, où Dieu nous apprend à dépendre de lui, à ressembler plus à son Fils Jésus-Christ, où Dieu veut faire éclater sa gloire. Alors suis sa direction. Aie confiance, ne doute point. Ce qu'il a fait pour toi. Il a fait plein de choses pour toi, croyez-moi. Encore cette semaine, soyons attentifs à ces merveilles. Et surtout, rappelons-nous qu'il peut encore le faire. Nous sommes ses enfants. Nous sommes au bénéfice de sa fidélité, de sa bonté, de son amour. Alors regardons pas à nos idoles, regardons à l'Éternel qui prend soin de nous. Amen.